Este son los gatos, ¿vale? Que da tarde especial a se cosa bien que se fue a fecha. No nada más. Donc dans le résumé de mon intervention que j'ai fait pour le site de Cerisy, j'ai annoncé que je présenterai une partie des travaux et activités que l'Internet a permis à un enseignant-chercheur d'un département de littérature française. Plus précisément, je parlerai aujourd'hui d'abord de certains sites littéraires que j'ai construits, je prépare, ensuite de l'enseignement assisté par ordinateur, et puis de la publication de textes numérisés. Mais cela a proportion différente. Je m'en expliquerai là-dessus au fur et à mesure. Et je vous dirai aussi plus tard d'où vient ce titre énigmatique de ma communication. Et je vous ai distribué un point copié dont le contenu est identique à ce qu'on voit sur l'écran actuellement.
Excusez-moi, je crois que le micro ne fonctionne pas.
Si, ça fonctionne.
Voilà, dans ce polycopié, j'ai mis les adresses de certains sites concernés pour que vous puissiez plus tard jeter un coup d'œil sur eux. C'est parce qu'en août, dans mon université, certains serveurs ne fonctionnent pas à cause des activités de maintenance. Alors, j'ai préféré ne pas en connecter sur Internet. Et, donc, je suis professeur de littérature française dans une université japonaise. Et je me spécialise, comme Michel a présenté, à la littérature du 19e siècle, surtout à Honoré de Balzac. Alors, comme vous voyez, c'est mon site personnel. Et il y a une image de Balzac, la sculpture que Rodin a faite et qui se trouve actuellement à Paris. Et je l'ai construit ce site personnel pour mes étudiants de l'université. Il y a des étudiants qui ne savent pas très bien ce que fait leur professeur, même après un an ou deux ans. Presque toutes les lignes sont en japonais, alors je m'excuse de vous montrer quelque chose que vous ne comprendrez pas. Mais j'espère que ça vous donne au moins un effet d'exotisme. Et dans cette page, j'ai mis des rubriques comme... je vous explique en parole. La rubrique, la littérature française, l'enseignement du français, ici c'est le département de la littérature française, et ici il y a la rubrique, la société japonaise d'études balzaciennes. C'est la page d'accueil du site Honoré de Balzac. C'est un site que nous avons, les membres de la Société japonaise d'études balzaciennes, a créé à l'occasion du 12e centenaire de Balzac, qui est né en 1799. Beaucoup de membres de la Société japonaise d'études balzaciennes ont collaboré à ce projet. Les uns ont apporté des photos sur la rubrique, l'album. Manifestation culturelle à l'occasion du deuxième centenaire. Et puis, il y a des rubriques, des tas de choses. Dans la rubrique, l'album de la comédie humaine, qui montre des images relatives à certains romans de Balzac, comme vous voyez maintenant sur l'écran. Et ce sont les photos de Fougères, qui n'est pas très loin d'ici. Et si on clique sur ces images-là, on peut avoir des images agrandies. Fougères, c'est une ville qui occupe une place importante dans le roman qui s'appelle Les Chouans. Et il y en a qui ont fait le reportage de manifestations culturelles qui a eu en France à cette occasion. Un autre nous a donné son fichier de la chronologie de la vie de Balzac. Ah non, c'est autre chose. Enfin, ce sont des livres publiés au Japon à l'occasion du 12e centenaire de Balzac. Et c'est pour que les visiteurs puissent voir les titres et le code de ces livres. Et puis, ça, c'est la chronologie de Balzac. Et vous voyez des mots soulignés et en couleur orange. Si on les clique, on voit apparaître sur l'écran des images qui sont déjà présentes ici, qui concernent ces mots. Ici, il s'agit de la ville natale du père de Balzac. Dans ce site, il y a aussi des articles en ligne, des liens utiles, comme on voit ici en haut de l'écran. Et il y est mentionné le site de M. Étienne Brunet et celui de M. Kazuo Kiryu, qui sont tous les deux participants de ce colloque. Et si on clique ici, et on saute sur le site de la maison de Balzac à Paris. Alors c'est ce qu'on voit en bas de l'écran. On voit le titre Balzac, la comédie humaine, édition critique en ligne. Mais si la première page, ça s'intitule Explorer la comédie humaine. On peut accéder par là au texte intégral de l'édition originale qui a été numérisé par le groupe international d'études balzaciennes. C'est un groupe de spécialistes français dont beaucoup sont des chercheurs de Paris 7, de Paris 8 cette page comporte des fonctions de recherche comme on en voit sur l'écran. Alors, quel est le but de notre site, le site japonais de la société d'études balzacienne? C'est d'abord diffuser des informations utiles pour un public japonais, que ce soit des lecteurs amateurs qui voudront comprendre un peu plus sur Balzac, des étudiants qui cherchent des moyens pour approfondir leurs connaissances ou des spécialistes qui peuvent être sûrs de trouver, en passant par ce site, des outils de recherche appropriés. Et je reviens un instant au sous-titre de ma communication qui est dans l'espace fermé et ou ouvert de l'Internet. On peut constater que notre site Balzac Homepage est dans un sens un monde clos, puisque la plupart des pages sont écrites en japonais et que les étrangers perdent pied s'ils viennent s'y égarer. Mais l'idée première n'était pas de construire un espace fermé, réservé uniquement aux japonais. J'aurais bien aimé voir naître, disons, une sorte d'association internationale des sites consacrés à Balzac et à son œuvre. Le portail de cette association aura des pages d'accueil en diverses langues, en français, en anglais, en italien, en japonais, en chinois, etc. Et il peut amener les visiteurs à des sites d'une langue qu'ils choisissent, des sites dont la gestion est autonome. Mais d'un site à l'autre, certains contenus sont communs, ou du moins une partie des éléments constituants sont communs. Par exemple, on peut adopter dans chaque site le même format pour la bibliographie annuelle des publications concernant les études sur Balzac. Si, dans le site de France, on consiste la rubrique de la bibliographie pour les articles mentionnés comme publiés au Japon, on peut sauter sur le site du Japon pour connaître certains détails, à savoir que tel ou tel article est en japonais ou en français, ou s'il pourra être lu sur ligne. Je dis cela parce que au Japon, depuis quelques années, le centre de recherche sur l'information a commencé à numériser tous les articles publiés dans les revues universitaires pour qu'on puisse lire à travers l'Internet. Un autre exemple, on a vu tout à l'heure la chronologie de la vie de Balzac avec les photos. Ces images-là peuvent être mises dans la chronologie de tous les sites associés. Quelqu'un n'a pas besoin de faire de nouveau un travail que les autres ont déjà fait pour le même besoin. C'est ainsi que je pense. S'il est réalisé, ce réseau de sites internationaux pourrait devenir un espace ouvert où on peut circuler comme on veut, d'une manière ludique ou selon un besoin académique. Est-ce que ce serait des châteaux en Espagne? Ce n'était pas tout à fait un pur rêve de ma part. Il y a 5 ou 6 ans, le groupe international d'études de Balzacienne a fait publier sous la forme de CD par la maison d'édition Acamedia le texte intégral de l'édition originale de la Comédie humaine. Le titre de ce CD était justement Balzac, explorer la comédie humaine que j'ai mentionné tout à l'heure et dont le contenu est actuellement transféré dans le site de la maison de Balzac. Au moment de l'apparition de ce CD, Acamedia a ouvert un site consacré à Balzac, où on pouvait lire des articles de spécialistes, des informations intéressantes. Après quelque temps, un étudiant japonais qui venait à cette époque-là faire sa thèse à Paris m'a envoyé un courriel en me disant que on voulait savoir qui s'occupe au Japon du site consacré à Balzac et qu'on voulait faire quelque chose ensemble. Je lui ai répondu que le responsable c'était moi, en ajoutant que le site d'Acamedia serait le noyau d'un site balzacien plus grand, plus ambitieux. Mais il n'y a pas eu de suite, et le site d'Acamedia est devenu inaccessible, a disparu, je sais quand. Alors, je me demande, quand viendra le temps où on dépassera le stade de chacun fait ce qu'on veut sur l'Internet? Le temps où il y aura une vraie communauté internationale du savoir dans laquelle des barrières de langue sont jusqu'à certains points surmontées. Ce genre de communauté peut devenir un espace ouvert sur la toile, même s'il est tout petit, même s'il n'est consacré qu'à un écrivain. Mais si l'œuvre de cet écrivain est digne d'être considérée comme un grand trésor de littérature, non d'un pays, mais du monde, elle ne mériterait pas qu'on lui dédie une association de sites que je vous ai expliqué. Et toutes ces réflexions, si on peut appeler réflexion, une sorte de souhait personnel, je les ai présentés pour que vous exprimiez, après la communication, vos idées ou vos suggestions. Ceci dit, je vais passer au sujet suivant. Et il y a un autre site littéraire que je prépare, mais j'en parlerai dans la troisième partie, puisque ça concerne aussi la publication de textes numérisés. Et puis ici, je n'ai plus besoin de parler de recherche sur Balzac, puisque après-demain, M. Kiryu va nous faire une communication qui concerne son aventure aussi balzacienne que possible. Donc, ce que je vais parler maintenant, c'est de mes activités pédagogiques qui ont plus ou moins de rapport avec l'Internet. J'utilise régulièrement la salle multimédia pour l'enseignement du français et de la littérature française. Avant d'entrer en détail, j'aimerais préciser concernant mes étudiants certaines caractéristiques dues à la société japonaise. Enfin, on va maintenant sur la page en version anglaise de mon université Sophia. Enfin, l'université Sophia, enfin, qui se trouve à Tokyo, regroupe 8 facultés et compte 11 000 étudiants. C'est une université catholique qui a été fondée suivant le vœu de François Xavier. Mais comme dans toutes les autres universités du Japon, les étudiants y sont admis après avoir passé le concours d'entrée. Et notre département de littérature française reçoit chaque année 50 à 60 étudiants. Or, ces étudiants n'ont presque aucune notion de français ou de littérature française. Les collégiens et les lycéens japonais, pour la plupart des cas, n'apprennent que l'anglais comme langue étrangère. Donc, nos étudiants commencent par apprendre l'ABC du français. De plus, dans l'enseignement secondaire, ils n'ont qu'une ou deux occasions peut-être de lire en traduction un texte de la littérature française. Étant donné que ça c'est particulier, quelque chose de particulier au Japon, étant donné que la filière suivie par un étudiant n'a pas une grande importance pour trouver un emploi. Autrement dit, comme un étudiant qui sort du département de littérature française peut être très bien embauché par la banque Mitsubishi ou bien par le constructeur d'automobiles Nissan ou d'autres grandes compagnies, cet étudiant n'est pas a priori obligé d'approfondir des connaissances dans sa spécialité. Bref, nous avons affaire aux étudiants qui, vaguement intéressés par la France, ont choisi notre département et à qui nous devons apprendre à la fois le français et la littérature française à partir de l'état zéro, tout en essayant, au fur et à mesure, de développer chez eux un goût conscient pour la langue et la littérature. C'est l'une des salles multimédia de notre université. D'abord, à propos de l'utilisation de textes littéraires numérisés pour l'enseignement du français. En deuxième année, les étudiants suivent 6 cours de français par semaine, dont 2 sont consacrés à la lecture. Les étudiants d'une année sont divisés en 2 classes qui ont chacune un professeur pendant le premier semestre et un autre professeur pendant le second semestre pour ces 2 cours de lecture. Les étudiants d'une classe ont ainsi 2 professeurs différents en alternance. Pour l'enseignement du français en deuxième année, je m'occupe de ces cours de lecture en utilisant des textes littéraires. Par contre, l'autre professeur traite des textes plus variés. En ce qui concerne mes 2 cours, je suis des approches différentes pour chacun d'eux. D'abord, pour le premier cours, c'est la lecture traditionnelle, c'est-à-dire la lecture approfondie qui consiste à lire d'une manière minutieuse un livre assez bref en demandant aux étudiants d'expliquer et de traduire une partie du texte. Mais avant, au cours de leur réponse, je présente un bon nombre d'exercices du français nécessaires à la compréhension d'un passage donné. Pour ce cours, j'utilise un conte ou une nouvelle telle que la Cafetière de Gautier ou de Message de Balzac. Ce sont des textes classiques polycopiés. Pour le deuxième cours qui se fait dans la salle multimédia, c'est la lecture sur écran. Et puis l'atelier de l'écriture. Un cours dure 1h30 et je le divise en deux parties. Pendant la première partie, les étudiants doivent faire, sans l'intervention de l'enseignant, la lecture de textes littéraires numérisés. Pendant la seconde partie, ils doivent écrire en groupe de 3 à 4 personnes un conte en français, selon une série d'illustrations qu'ils choisissent au début du semestre. Dans un site, sur une page où on va maintenant, j'ai regroupé des ressources pour l'enseignement du français. Il y a une rubrique, c'est tout en haut. Voilà, c'est en français, ça signifie cabinet de lecture en français. Et on peut trouver une douzaine de nouvelles contemporaines. Maintenant, c'est une page tirée de La Vampe et le Normalien de Marcel Aimé. Contrairement au cours de la lecture traditionnelle, les étudiants sont complètement libres d'interpréter des textes donnés, enfin, comme ils l'entendent, mais je leur donne des conseils ou des consignes précises. Par exemple, je leur dis, n'essayez pas de tout comprendre. Des fois, il faut savoir se contenter d'une compréhension approximative. De quoi parle-t-on? À peu près quel temps, quelle ambiance y règne-t-il? Il suffit de ne pas perdre le fil du récit. Dans ces conditions, vous pourrez très bien répondre aux questions données dans le devoir de la fin du semestre. Ou bien, même si vous rencontrez des mots inconnus, essayez d'abord d'imaginer ce qu'il peut vouloir dire d'après le contexte. Ou encore, si un mot reste obscur et que vous le jugez important pour la compréhension de la suite, consultez un dictionnaire de langue française et non pas un dictionnaire franco-japonais. Vous voyez sur l'écran la page d'un site de dictionnaire de langue fourni par TV5. Au-dessus d'une page, d'une nouvelle, qui est La Seine, écrite par Patrick Modiano. Je demande aux étudiants d'ouvrir, dès qu'ils sont installés devant leur ordinateur, d'ouvrir deux fenêtres de web. L'une pour la lecture et l'autre pour la consultation du dictionnaire. Dans cette première partie du cours, les objectifs prioritaires sont premièrement s'habituer à lire un texte français en français, c'est-à-dire en ne faisant pas recours à un dictionnaire français-japonais. Deuxièmement, s'habituer à utiliser un dictionnaire de langue française. Car si on ne donne pas aux étudiants à ce moment de l'apprentissage l'occasion de pratiquer ces deux activités, la plupart d'entre eux seront dépendants du japonais pour lire des textes français. Et j'ajoute que la rubrique cabinet de lecture en français n'est pas accessible du dehors du campus. Je l'ai faite de la sorte pour ne pas avoir de problème avec les maisons d'édition. Donc, pour la lecture interactive, enfin, entre guillemets, les étudiants travaillent dans un espace fermé, à part les sites de dictionnaire. Et d'autres volets de ce cours de lecture, c'est l'atelier de l'écriture. On voit ici enfin, des titres en japonais, en français. Qu'est-ce que cela veut dire enfin, là, il y a 6 titres. Et c'est la première page de... Attendez. Oui. Ben, ce sont les premières pages de 6 titres. Et si je clique les titres, un titre, on entre dans cette série d'illustrations. Et ce que je vais vous montrer, c'est un exemple, enfin, qui s'appelle, enfin, une série d'illustrations dont le titre est le secret, enfin, du nombre. Et voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, je demande aux étudiants de choisir, enfin, pour chaque groupe, une série d'illustrations à partir de laquelle ils doivent créer un compte original en français. Je leur indique 3 dates où ils doivent me remettre le premier tiers, le deuxième tiers et le dernier tiers de leur composition. Ce que vous voyez maintenant sur l'écran, c'est un exemple de ce que je fais. Je ne corrige pas leur manuscrit. En première étape, sur les imprimés, enfin c'est sur les imprimés, qu'ils m'apportent leur composition. Je marque les fautes apparentes avec des lignes droites et des mots ou expressions douteux avec des lignes onduleuses. Et sur cet exemple, enfin, c'est en rouge, ces lignes onduleuses. Parfois, j'ajoute des remarques si le récit ne tient pas bien. En deuxième étape, je demande aux étudiants d'écrire à la main, dans la marge de leur manuscrit imprimé, des mots ou des phrases qu'ils jugent bons pour des endroits que j'ai soulignés. Ce sont les étudiants eux-mêmes qui font la correction. En troisième étape, cependant, quand ils m'apportent des manuscrits corrigés par eux-mêmes, je les examine et je discute individuellement ou en groupe avec les étudiants pour qu'ils puissent trouver des fautes qui existent encore ou des solutions acceptables pour des passages obscurs. L'objectif de cet atelier de l'écriture n'est pas de faire produire aux étudiants un texte en français. Mais l'objectif est de les aider à acquérir des éléments de l'autonomie pour maîtriser le français. Les étudiants en question, qui sont en deuxième année, ont appris au cours de leur première année les bases du français. Ils ont une certaine somme de connaissances, mais quand ils veulent exprimer un peu longuement, leur français devient fantaisiste, sinon catastrophique. Alors, en leur faisant comprendre par eux-mêmes ce qui ne va pas, et éventuellement les encourageant sur ce qu'ils ont bien assimilé, j'essaie de faire en sorte qu'ils ont une conscience, qu'ils peuvent s'améliorer, mieux faire ou aller plus loin par eux-mêmes. Vers la fin du semestre, chaque groupe doit présenter la version finale du compte sous forme d'un fichier. Dans le dossier commun à cette classe qui se trouve dans le serveur de la salle multimédia. Alors, chaque étudiant décharge des fichiers des comptes créés par les autres groupes. Comme devoir de fin de semestre, ils lisent ces comptes et choisissent les deux meilleurs avec le commentaire à me remettre. Alors, je constate que les deux tiers des groupes arrivent à créer des comptes plus ou moins intéressants, avec des fautes, des maladresses du français, mais quand même, ils arrivent à créer des choses émouvantes parfois. Les étudiants eux-mêmes ne manquent pas de le remarquer. Ils me disent dans leurs commentaires que tel ou tel compte est bien fait, magnifique, à la fois pour le français et dans le récit. En tout cas, enfin, je vois des fois, quelquefois, des contes qui ont une vraie littéralité, qui vont au fond du cœur du lecteur. Même s'ils maîtrisent encore mal le français, ils sont capables de faire cela. Et en tout cas, cette expérience stimulante pour beaucoup d'étudiants leur permet d'avoir un minimum de sens critique sur ce que font les autres et ce qu'ils font eux-mêmes. Et je signale que les illustrations qu'on utilise pour créer un compte sont accessibles à la maison, étant donné que c'est principalement à la maison que les étudiants travaillent pour écrire des textes correspondant aux images. Une partie du site est donc ouverte au public. Enfin, je montre un exemple d'un groupe. Des fois, au lieu des phrases en prose, ils mettent des poèmes. Et c'est un récit vraiment touchant. Bon, je passe à l'utilisation de l'Internet pour les cours spécialisés. L'utilisation de l'Internet pour les cours spécialisés en troisième année. En troisième année, nos étudiants suivent des cours proprement littéraires, que ce soit dans le cadre des cours magistraux ou dans le cadre des travaux pratiques. En plus, ils peuvent choisir un certain nombre de cours qui concernent langue, culture, art, société, etc. Je voudrais vous signaler en passant que dans une université au Japon, la licence s'obtient au bout de 4 années d'études. Mais comme les étudiants consacrent leur 4e année à chercher un emploi et puis rédiger un mémoire de fin d'études, en général, ils ne viennent d'une manière régulière au cours que jusqu'en 3e année. Alors, c'est avec les étudiants, pour la plupart, de 3e année, que j'ai mes cours spécialisés. Et parmi ceux-ci, j'utilise l'Internet pour deux cours semestriels. L'un s'intitule « Travaux dirigés en français pratique » et l'autre « Informatique et littérature ». Je donne aussi un cours magistral et un travaux pratiques, mais tous deux au sujet de la littérature française au XIXe siècle, mais cela se fait dans un cadre classique. Alors d'abord, à propos du travaux dirigés en français pratique, c'est un cours pour ceux qui veulent faire un entraînement intensif pour améliorer leur capacité de pratiquer le français. Ils doivent faire un grand nombre d'exercices, tant oraux qu'écrits, sur des sujets variés et sous diverses formes. Et les étudiants accomplissent une partie de ces exercices avec l'ordinateur. C'est ce que je montre, un exemple ici sur l'écran. La première question, c'est comment dit-on en français des quatre mots en chinois. On doit mettre dans la case vide, dissolution, des choses comme ça. Pour le deuxième, c'est le patrimoine mondial de l'humanité, des choses comme ça. Il y a quelque chose qui ne va pas, mais ça n'a pas une grande importance, je crois. C'est la première question d'une série d'exercices. Il s'agit ici de transformer des verbes. Des verbes en nom, des verbes ou adjectifs en nom. Je n'ai pas suffisamment transféré dans le Macintosh de Norbert, peut-être. Enfin, il y a une série. Enfin, j'explique brièvement. La deuxième question, c'est de trouver un même mot qui peut trouver sa place dans deux phrases différentes. Et dans la troisième, il faut choisir une préposition appropriée pour chaque phrase. Pour la quatrième, on doit choisir un verbe pour une phrase vide et le conjuguer correctement selon le contexte. La cinquième est la question de la compréhension d'un texte un peu long. La sixième est de compléter des mots dans des endroits différents d'un texte. Dans la septième, on doit écrire en japonais pour des questions de la compréhension d'un texte. Le huitième, c'est le thème. Ensuite, c'est la dictée, puis il y a deux questions pour la compréhension orale. Ces questions sous forme de l'épreuve du diplôme. Ces questions sont calquées sur ceux qu'on rencontre aux épreuves du diplôme d'aptitude pratique au français, officiellement reconnu par le ministère de l'Éducation japonais comme test de connaissance pour le français. Ces questions, faire ces questions, c'est un bon moyen pour les étudiants, jusqu'à une certaine mesure, de savoir où ils se trouvent dans l'échelle des niveaux de connaissance. Et puis, comme l'ordinateur corrige sur place, et donnent la notation, ils peuvent s'apercevoir d'une manière objective et rapide de leur qualité ou faiblesse relative. Mais les exercices en ligne n'occupent qu'une partie de mon cœur. Le but n'est pas de faire en sorte que des étudiants réussissent à tout prix à l'examen du diplôme, mais faire acquérir une autonomie d'apprentissage pour le perfectionnement de leur français. Dans cet objectif, l'Internet peut-il être une grande aide pour les étudiants? Tout dépendra de leur situation concrète. Sur la toile, il y a bien des sites de ressources pédagogiques pour l'apprentissage du français. Un exemple représentatif est le site de ClickNet qu'on voit ici. C'est un portail. Ça peut être un portail pour les apprenants du français, langue étrangère. Il offre un nombre impressionnant de liens pour les sites pédagogiques. On peut y trouver quelques pages bien définies et assez simples à manier, comme c'est le cas de cet exercice qui est fait d'ailleurs par ClickNet même. Mais je ne conseille pas à mes étudiants de première et de deuxième année d'utiliser ce portail parce qu'ils rencontreront l'effet suivant. D'abord, ils s'aperçoivent vite que beaucoup de sites n'existent plus. Ensuite, comme l'explication du site ou la consigne pour les exercices sont en français, ils comprennent mal ce qu'ils doivent faire. Enfin, de rares sites, ils ne peuvent pas savoir si un site leur est utile ou non, jusqu'à ce qu'ils accomplissent un assez grand nombre d'exercices. Enfin, de rares sites qu'ils peuvent juger satisfaisants ne leur offrent souvent que bien peu de quantité d'exercices. Je pense qu'ils perdent beaucoup de temps s'ils s'aventurent dans l'Internet pour améliorer leur langue. Quant aux étudiants de troisième année, je leur conseille vivement d'utiliser l'Internet pour lire des journaux ou écouter des radios, pour avoir des occasions d'écouter d'autres Français que les professeurs français de notre département. D'ailleurs, j'utilise de temps en temps dans mon cours des émissions de brève durée, comme c'est le cas ici sur l'écran, les émissions offertes par Arte Radio ou France 3. C'est pour faire des exercices de la compréhension orale. Mais dans ce stade de l'apprentissage, l'Internet doit être un outil secondaire, sinon parallèle. Un matériel pédagogique n'est ni utile ni efficace s'il n'est suivi d'un système d'évaluation et de conseils appropriés. Sauf certaines ressources pédagogiques, l'Internet ne peut pas remplir pleinement ses fonctions. Évaluer un programme de traitement pour une somme de données peut le faire dans une certaine mesure. C'est pour cela que j'ai mis à la disposition des étudiants plusieurs séries d'exercices, comme on en a vu un exemple tout à l'heure. Et en passant, je reviens au titre de mon exposé. C'est le titre du logiciel que je suis en train d'élaborer avec mes collaborateurs au Japon pour que les étudiants puissent, à partir du cerveau de mon université, utiliser ces ce logiciel qui est assez complet, qui a des exercices oraux et écrits du niveau élémentaire jusqu'au niveau perfectionnement. Et on va créer en deux versions, en PC et en Macintosh. Mais comme je n'ai apporté que des éléments, comme je n'ai que des éléments en PC actuellement, je n'ai pas pu mettre en image ce qu'il contient. Et alors je reviens pour finir cette partie. Enfin, ces pages d'exercice ne sont pas ouvertes au public, étant donné que la représentation poserait des problèmes en ce qui concerne les droits d'auteur. Et quant au cours informatique et littérature, bien sûr, on utilise l'ordinateur et l'Internet dans diverses activités, telles que rédaction de la bibliographie, consultation d'articles, utilisation de bases de données, de bibliothèques électroniques, recherche sur ligne. Dans le site de mon département, il y a une page que vous voyez sur l'écran et qui est consacrée aux démarches à suivre pour la rédaction de devoirs ou de mémoires de fin d'études. Dans la première séance de mon cours, je demande aux étudiants de rédiger, selon les conseils donnés dans cette page web, une bibliographie en supposant qu'ils vont écrire cette année-là un mémoire sur un sujet ou une œuvre qui l'intéresse. Parmi les copies, je choisis un bon exemple, c'est-à-dire une bibliographie bien construite, et un mauvais exemple, une bibliographie qui contient des fautes de différentes sortes. Je les photocopie avant de les rendre avec les autres copies aux étudiants. Et je montre ce bon exemple et ce mauvais exemple à travers le projecteur, en ajoutant des remarques. Puis j'ai bref un entretien individuel avec chaque étudiant pour vérifier s'il a bien compris les problèmes qui se trouvent dans sa copie. En deuxième étape, une autre activité du même genre. Dans mon site personnel que vous avez vu au début de cette communication, j'ai mis un mémoire entier d'une ancienne étudiante que vous voyez actuellement. Une page. Et ce mémoire est assez convaincant et plutôt bien fait, mais il contient des points faibles ou des erreurs mineures. Alors je demande aux étudiants de lire ce mémoire tout entier et de me remettre un commentaire en citant une dizaine de passages au moins qui montrent des qualités ou des défauts à leurs yeux. À partir des commentaires des étudiants, je discute avec eux le bien fondé de leur opinion en observant sur l'écran les passages en question. En ce qui concerne les sites littéraires, enfin, cette page-là, enfin, ce mémoire s'appelait. C'était quoi déjà ? Enfin, elle a traité. Le rapport entre certains romans du 19e siècle et le demi-monde. Et c'était assez intéressant. En ce qui concerne les sites littéraires, je fais un tour d'horizon en montrant plusieurs exemples. Enfin, c'est ce que vous faites, je crois, pour la plupart des cas, Dimcher. J'ai encore combien de minutes?
Tu as parlé pendant 50 minutes là, à peu près.
Ah, donc je vais abréger la dernière partie, parce que enfin, le cours internet, enfin internet et littérature, ou bien informatique et littérature, enfin, on peut avoir des idées assez précises chacun. Alors je passe directement publication de textes numérisés. J'ai montré tout à l'heure des passages de nouvelles de Marcel Aimé et de Patrick Modiano. En ce qui concerne cette numérisation de textes littéraires, je l'ai fait faire. On a fait aussi pour trois romans de Luc Lesio. Mais ce sont des textes que je ne peux pas rendre public en les mettant dans le site accessible à tout le monde. Cela doit rester pour l'usage privé, donc pour mes recherches ou mes activités pédagogiques. Par contre, j'ai le projet ou je ne sais pas si je dois dire j'avais le projet de mettre en ligne plusieurs livres illustrés de l'époque romantique. Vous connaissez leurs titres même si vous n'avez pas lu ces livres, tels que Les Français peints par eux-mêmes, Le Diable à Paris, Le Nouveau Paris. Ce sont des livres qui rassemblent des textes assez brefs, d'un style mi-journalistique, mi-physiologique, rédigés par plusieurs auteurs et qui sont accompagnés d'illustrations. Ils traitent des mœurs qu'on peut observer dans différents milieux sociaux, dans des métiers divers, ou dans divers, enfin dans des quartiers variés. Ce qui est commun dans ces textes, c'est qu'ils ont plus ou moins tous Paris comme cadre. Ce genre de littérature a si bien proliféré à cette époque-là qu'on peut appeler la littérature des mœurs de Paris, comme on peut appeler la littérature fantastique. Il y a 3 ans environ, j'ai pensé que pour bien comprendre à travers des œuvres littéraires la France du 19e siècle ou le développement de différents mythes de Paris, il faudrait lire d'autres livres que ceux qu'on considère comme chefs-d'œuvre de la littérature française. De ce point de vue-là, des illustrés romantiques qui partent de mœurs de Paris pourraient m'apporter de nouveaux éclaircissements historique ou contextuel quand je fais des recherches sur l'œuvre de Balzac. Cette lecture me montrerait bien des aspects intertextuels entre la comédie humaine et les écrits de ses contemporains. D'autant plus que, avec ses études de mœurs, Balzac était un des grands fondateurs de la poésie de Paris moderne. Mais j'ai pensé aussi que je préfère un travail dont bénéficieront les autres chercheurs ou les étudiants pour leur recherche. J'ai pris tout de suite la décision de numériser certains illustrés romantiques pour les mettre en ligne. Parce qu'à cette époque-là, ni Frantexte, ni la BNF ne semblaient s'intéresser aux textes mineurs, entre guillemets. Et l'exemple à suivre était tout près de moi. Il s'agit de M. Kiryu, membre de la Société japonaise des études parisiennes, à laquelle je suis adhéré moi aussi. Il a créé la concordance électronique de toute la comédie humaine avec l'édition de la Pléiade. Et puis la concordance d'autres ouvrages de Balzac qui ne sont pas compris dans la comédie humaine et de sa correspondance. Les Balzaciens du monde entier sont reconnaissants à ces travaux. Donc, avec une subvention de la part du ministère japonais de l'éducation nationale que j'avais d'avril 2003 à mars 2005, j'employais j'ai employé certains de mes étudiants à faire la numérisation. En mars dernier, la numérisation était finie pour Nouveau Paris et la vérification des orthographes après la numérisation était finie pour le diable à Paris. Alors j'ai annoncé dans mon site que je mettrai prochainement en ligne le diable à Paris et en guise d'introduction, j'ai montré la page d'accueil que vous voyez maintenant ici. Et j'ai mis ensuite deux tables de matière et deux index. La première table de matière contient seulement les auteurs de texte. La deuxième table de matière, il s'agit des illustrateurs. J'ai mis en rouge. Et j'ai créé un index. Index 1, c'est pour les auteurs de texte. Alors, on voit que c'est surtout Balzac lui-même et Stahl qui ont plus contribué à la rédaction. Et le deuxième index, il s'agit des illustrateurs. Alors, on voit tout de suite que c'est Bertal et Gavarni qui ont le plus produit. Alors, j'ai pensé de mettre en ligne entre ces choses-là. Et en fait, depuis avril dernier, c'est mon année sabbatique, et il y a 4 mois et demi, je suis venu à Paris pour passer un an dans cette ville, Paris, qui est ma deuxième patrie, entre guillemets. J'avais deux commandes, je me dépêche. Oui. Mais juste avant de venir à Cerisy, il y a 6 ou 7 jours, j'ai découvert une chose consternante. En cherchant tout à fait par hasard dans Gallica, les livres qui contiennent dans leur titre le mot diable. Sur l'écran de Gallica, j'aperçois le titre Le diable à Paris. Et il y a une mention en train de préparation. Du coup, je cherche les Français peints par eux-mêmes et aussi en train de préparation. Je ne pensais pas que la BNF numériserait ces livres. Je croyais qu'elle laisserait tomber des pans entiers de l'héritage pour ce qui est de la numérisation. Mais après avoir écouté ce que M. Béard a dit avant-hier sur la philosophie et l'ambition de la nouvelle BNF, je comprends maintenant qu'elle s'est en quelque sorte redressée, cette bibliothèque-là. Et quant à mon projet de numériser des livres illustrés, romantiques, je n'avais pas l'intention d'y ajouter un moteur de recherche. Alors, puisque la BNF va les mettre en ligne, peut-être je n'aurai plus besoin d'offrir ma version. Enfin, c'est ce que je me le demande en ce moment. Et si la BNF avait annoncé sur son site le projet de numérisation avec la liste concrète des ouvrages envisagés, je lui aurais volontiers offert tous les fichiers du diable à Paris. Enfin, si je vous raconte tout cela, ce n'est pas pour exhiber ma mésaventure. Je crois qu'il y aurait là du sujet de réflexion. Quel texte numériser, pour quel public, avec quelle fonction, quel résultat envisager, quel problème éventuel, etc. Alors, je finis mon intervention en 3 mots. Alors, je voudrais remarquer que jusqu'ici, plutôt que de montrer des résultats exemplaires de ma part, j'ai exposé des questions qui attendent des réponses sans doute nombreuses de votre part. En tout cas, j'espère que mon intervention ne se soit pas trop écartée du fil conducteur de ce colloque. Je vous remercie de votre attention.
Non, ça ne s'est pas écarté. Ça nous permet même d'aborder une des pièces du puzzle qu'on n'a pas tellement abordé jusqu'à maintenant, celle de la francophonie. Et ça nous rappelle que l'Internet est à la fois une incitation à apprendre le français, un outil pour l'enseigner et pour l'apprendre, mais également un vecteur pour travailler ensemble. Et ce que tu nous as présenté sur les travaux balzaciens sont très remarquables. Enfin, il nous en parlera également. Mais voilà un outil qui permet à des balzaciens de tous les pays de travailler ensemble, de bâtir des outils. Alors, même quand il y a des télescopages comme celui que tu viens de nous signaler. Alors, tu as posé beaucoup de questions en nous laissant peu de temps pour les réponses, mais ou pour d'autres questions complémentaires, mais on a quand même le temps de poser un certain nombre de questions. Michel,
j'avais juste une suggestion.
Oui.
À propos de l'enseignement du français dans le second.
Oui.
Au Canada, nous avons une grande expérience de l'enseignement du français dans le second et de l'utilisation de l'ordinateur et de l'Internet dans l'enseignement du français dans le second. Alors je pense que là, il y a toute une mine, toute une source de sites,
oui,
et d'exercices en ligne qui pourront vous aider.
Oui, c'est ce que je compte. Oui, oui. Oui, c'est ce que je compte faire. Oui.
Oui. Je veux une remarque, c'est pas la francophonie, Balzac, mais on n'était pas forcément sur français langue étrangère, mais pour des sites comme ClickNet et d'autres, je suggérerais quand même que vous utilisiez. Vous avez un cadre restreint, mais il y a beaucoup de